Oui. À Washington,
Chérubin Dorcil et Idrissa Seloudia. Les grands points de l'actualité.
En RDC, les manifestations se poursuivent à Goma, mais calme relatif à Kinshasa où le Sénat a reporté de 24 heures le vote sur la nouvelle loi électorale.
Ce qui nous intéresse, quand le mandat se termine, il faut que le président cède le pouvoir à un autre président.
Oui, ça c'est
on ne veut pas l'amélioration des mandats.
Un attentat à la voiture piégée fait au moins 5 morts en Somalie.
L'est de l'Ukraine, de nouveau en proie à la violence, plus de 40 morts en 24 heures dans les combats entre séparatistes et forces gouvernementales.
Au Yémen, le président Mansour Hadi et son cabinet démissionnent face à la pression des miliciens chiites.
À la Coupe d'Afrique des Nations, les Zambiens et les Tunisiens s'affrontent dans un match riche en rebondissements.
Ils se sont affrontés. Malheureusement, la Zambie a baissé pavillon face à la Tunisie. 2-1, on aura le journal de la CAN avec Nicolas Pineau.
Et bien sûr, nous aurons notre page économie, mais d'abord le journal.
En République démocratique du Congo, le Sénat a reporté à demain la séance sur le vote d'une loi électorale contestée. Tandis que les manifestations continuaient à Goma, Kinshasa était relativement calme aujourd'hui. Bagasikoura.
Goma a été le théâtre de violences entre manifestants et policiers alors que les activités reprenaient ce jeudi à Kinshasa. Après 3 jours de manifestations contre un projet de loi électorale, en début de journée, la police a ouvert le feu sur des manifestants. L'AFP signale 2 étudiants blessés par balle. Le maire de la capitale du Nord Kivu a ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à lundi, indique Radio Okapi. Sur les 3 raisons de cette accalmie relative à Kinshasa, Joseph Olenga Koy, président des forces novatrices pour l'Union et la solidarité.
Mais je crois que le calme qui est revenu, c'est parce qu'ils ont voulu, nous avons demandé à nos bases d'attendre la décision qui sera donnée aujourd'hui au Sénat. Parce qu'on nous a dit qu'ils vont rejeter. C'est comme ça qu'on a attendu maintenant qu'ils ont reporté.
Joseph Olenga Koy, président des forces novatrices pour l'Union et la solidarité.
En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées ce jeudi dans l'explosion d'une voiture piégée. L'attentat revendiqué par les islamistes somaliens du groupe Al-Shabaab, selon l'agence Reuters, a été perpétré devant un hôtel de Mogadiscio à la veille d'une visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan. Jacques Aristide.
L'attentat a visé le Somali Youth League Hotel, situé en face du palais présidentiel, dans la capitale somalienne. Des membres d'une délégation turque séjournaient déjà dans cet hôtel en attendant la visite que doit effectuer le président Erdogan à partir de vendredi. Depuis Davos, le premier ministre turc a déclaré qu'aucun membre de la délégation n'a été blessé dans l'explosion. Ahmet Davutoglu a également indiqué que le déplacement présidentiel en Somalie était toujours à l'agenda et qu'une enquête était en cours pour déterminer si l'attentat suicide ciblait délibérément la délégation turque. Les victimes, dont au moins 2 policiers et 1 employé de l'hôtel, seraient toutes des Somaliens. Les autorités du pays ont fait savoir que les mesures de sécurité avaient été immédiatement renforcées dans la capitale.
Un tribunal égyptien a ordonné aujourd'hui la remise en liberté des 2 fils de l'ex-président Hosni Moubarak en attendant un nouveau jugement dans une affaire de corruption. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon l'AFP, l'avocat d'Allah et Gama Moubarak a expliqué que les 2 prévenus ont atteint la période maximale de détention provisoire et peuvent donc quitter la prison. Les 2 fils Moubarak doivent être jugés de nouveau avec leur père, renversé en 2011. Ils sont accusés de détournement de plus de 10 millions d'euros destinés à l'entretien du palais présidentiel. Les 2 fils avaient écopé de 4 ans de prison en mai, tandis que M. Moubarak a été condamné à 3 ans de réclusion. Mais après un rappel, la Cour de cassation a annulé le 13 janvier ce verdict et ordonné un nouveau procès. Dans une autre affaire, un tribunal a blanchi en novembre les 3 hommes d'autres accusations de corruption. Et l'accusation de complicité de meurtre a été abandonnée contre Hosni Moubarak, jugé pour la mort de centaines de manifestants durant la répression du soulèvement populaire de 2011.
En Libye, le colonel Senoussi Kaïba, chef des services de sécurité de Sirte, et son chauffeur ont été assassinés aujourd'hui. Selon des sources citées par l'AFP, leurs assaillants ont réussi à prendre la fuite. Sirte, située à 500 km à l'est de Tripoli, est le théâtre d'assassinats et d'enlèvements de Libyens et d'étrangers. Elle est sous le contrôle de groupes armés, principalement Ansar al-Sharia, classé groupe terroriste par l'ONU.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré ce jeudi savoir où se trouve l'humanitaire française enlevée lundi à Bangui par une milice anti-Balaka et a souhaité que les négociations pour sa libération aboutissent rapidement. Ses ravisseurs protestent via ce rapt contre l'arrestation d'un de leurs chefs, Rodrigue Ngaibona, alias Général Angelo, par la mission des Nations Unies en Centrafrique. Ce dernier a participé au massacre de musulmans de décembre 2013, a déclaré Jean-Yves Le Drian selon l'AFP.
En Zambie, Edgar Lungu, le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle anticipée de mardi, est en tête après le dépouillement des bulletins dans 80 circonscriptions sur 150. C'est ce qu'a indiqué jeudi la commission électorale, citée par l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité au Yémen, le président Abdi Rabu Mansour Hadi a démissionné selon l'AFP, citant l'un de ses conseillers, Sultan Al-Atwani. Auparavant, la presse avait annoncé la démission des membres du gouvernement dirigé par Khaled Baha. Depuis plusieurs jours, les rebelles Houthis avaient encerclé le palais et la résidence privée du président, une action qui s'est poursuivie ce jeudi malgré l'accord intervenu la veille entre les deux parties. Cet accord prévoyait le retrait de la milice chiite et la remise en liberté du secrétaire à la présidence, kidnappé par les rebelles en début de semaine. Les récents affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts dans la capitale yéménite, Sanaa.
En Ukraine, au moins 41 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans l'est du pays. Depuis 9 mois, l'armée ukrainienne affronte des rebelles séparatistes pro-russes. Claire Morin-Gibourg.
Les combats en Ukraine se sont intensifiés. C'est à l'armée jeudi, le commandant en chef de l'OTAN, le général américain Philip Bedlove. Depuis quelques jours, le nombre de victimes est en forte hausse. Au moins 41 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Jeudi a été l'une des journées les plus sanglantes avec la mort d'au moins 34 personnes, dont 13 civils tués par un obus au moment où l'armée ukrainienne abandonnait aux rebelles l'aéroport stratégique de Donetsk. Même son de cloche du côté de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La situation empire particulièrement pour les civils, a déclaré son porte-parole. Selon les estimations, au moins 5000 personnes sont mortes depuis le début du conflit il y a 9 mois. 10 000 ont été blessées et 1 million de personnes ont été déplacées.
21 membres d'une coalition internationale contre le groupe État islamique se sont réunis à Londres pour discuter de leurs progrès et évaluer leur stratégie. La menace de l'État islamique est le défi de notre temps, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry, présent à la réunion, de même que son homologue britannique Philip Hammond et le premier ministre irakien Haider al-Abadi. Les frappes aériennes de la coalition ont brisé l'élan des djihadistes qui ont perdu des milliers de combattants et sont contraints à une posture plus défensive, a dit le département d'État.
L'Assemblée générale de l'ONU a entamé jeudi une session spéciale consacrée à la montée de l'antisémitisme dans le monde. C'est ce que rapporte l'AFP qui cite un message du secrétaire général Ban Ki-moon. La France et l'Allemagne sont représentées par leur secrétaire d'État aux affaires européennes, Harlem Désir et Michael Roth. 37 pays, dont les États-Unis, Israël et les membres de l'Union européenne, avaient requis cette réunion depuis octobre dernier.
Les États-Unis et Cuba ont tenu ce jeudi leur deuxième journée de pourparlers à La Havane dans le cadre des efforts de normalisation entre les deux pays. Les deux délégations devaient discuter notamment de la réouverture de leurs ambassades à Washington et dans la capitale cubaine, La Havane, un mois après l'annonce simultanée par le président Barack Obama et son homologue Raúl Castro de rapprochement historique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. La Tunisie prend la tête du groupe B avant le match RDC-Cap-Vert. Direction Ebebeyine. Après une première période avec de bonnes occasions tranchantes, les Chipolopolo de Zambie ont ouvert le score. Après une heure de jeu, Mayuka fusille le gardien tunisien 1-0. Puis les Tunisiens égalisent grâce à Akaishi. Et en toute fin de match, c'est Chikawi de la tête qui donne la victoire à son équipe 2-1. Les Aigles de Carthage, premier du groupe avec 4 points. Autre rencontre à suivre, les Léopards de la RDC face aux Requins Bleus du Cap-Vert. Le point sur ce match avec Thierry Kambundi.
Face au Cap-Vert, la République démocratique du Congo veut absolument l'emporter. Dieu merci Mbokani Bezoa et attaquant des léopards de la RDC.
Ça se passe très bien, probablement. On est ensemble, tous les groupes. On travaille bien, j'espère qu'on va gagner.
Sorti au premier tour en 2013 en Afrique du Sud, les Congolais tiennent cette fois à aller le plus loin possible dans cette CAN. Youssouf Moulumbu est le capitaine de l'équipe nationale de la RDC.
On a envie d'aller loin. Aujourd'hui, on a une bonne génération avec les Mbokani, les Joël, Kimwaki, avec des nouveaux comme Bolasie ou Kebanon. On a un effectif complet. Donc aujourd'hui, on se doit d'amener ce pays-là, il doit être. Finale, demi-finale, quart de finale, on va se battre jusqu'au bout.
Côté capverdien, le sélectionneur José Rui Aguias s'est beaucoup attardé sur les qualités de l'équipe de la République démocratique du Congo en conférence de presse.
Je pense qu'une équipe forte physiquement et techniquement.
Je crois que c'est une équipe très forte physiquement et techniquement.
Depuis Ebebeine, Thierry Kambundi Kafuti de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Dans le groupe C, demain, l'Algérie opposée au Ghana et le Sénégal qui affrontent l'Afrique du Sud ont la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale à Mongomo. Notre consultant Jules Valentin Gouet nous en parle dans son coup de sifflet.
Bonjour. À la veille de la deuxième journée décisive, dans le très relevé groupe C, les Black Stars du Ghana se retrouvent dos au mur. Le but assassin du Sénégalais Moussa Sow dans les ultimes secondes du premier match les condamne à l'exploit contre l'Algérie, un quitte ou double qui risque d'accoucher la première sensation de la compétition. Le Ghana a montré des signes inquiétants lors de la seconde mi-temps du match d'ouverture. Une équipe physiquement émoussée, peut-être à cause d'une préparation insuffisante, un bloc contraint de reculer et de faire peser inhabituellement le poids du match sur le secteur défensif. Les cadres Ayou, Mensa, Badou, retenus pour épauler les plus jeunes, jouent-ils la compétition de trop? Les nouvelles étoiles Atsou, Rabiou et Moubarak ont-elles évolué en dessous de leur niveau? Les innombrables supporters des Black Stars, les fameux Brésiliens d'Afrique, aux jeux vifs et spectaculaires, espèrent que le staff technique a de nouveau la formule qui permet au Ghana de retrouver sa magie collective et ses gris-gris techniques capables de lézarder n'importe quel mur fut-il algérien? Réponse dans quelques heures. À bientôt.
Retour à présent sur la sensation hier sur la pelouse à Bata. Les Diables Rouges du Congo ont battu le Gabon. Une victoire historique puisqu'il faut remonter à la CAN 74 en Égypte pour retrouver trace d'un succès congolais en Coupe d'Afrique des Nations. Un peu plus tôt, mercredi, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale ont partagé les points. Ce résultat n'arrange pas les vice-champions d'Afrique qui sont derniers du groupe A avec un point. Salif Kabore sur place à Bata. Pour VOA Afrique.
Après ce match nul contre la Guinée équatoriale, l'entraîneur des étalons de Burkina Faso, Paul Put, dit ne rien comprendre de ce qui arrive à son équipe.
C'est un problème actuellement, c'est finissait. Je n'ai rien compris. Je pense que c'est la confiance du joueur. Si tu crées des occasions, ça c'est une bonne façon. Ça veut dire que l'équipe joue bien. Sinon, tu ne vas pas crier. Maintenant, si tu as des occasions, il faut finir.
Pour l'entraîneur de Zalang National, la Guinée équatoriale a su contenir le jeu burkinabé, surtout en première mi-temps où les velléités étaient très fréquentes dans son camp. Esteban Baker.
Bueno, siendo honesto, yo creo que Burkina Faso ha sido un poco superior, ha tenido más ocasiones.
J'avoue que la partie, elle a été très rude. Nous avions rencontré une équipe très forte qui cherchait à gagner à tout prix, vu qu'elle a été battue au premier match. Vu le prochain match avec le Gabon, c'est là où tout va se décider.
Dimanche prochain, les étalons du Burkina Faso se retrouveront face au Congo-Brazzaville. Et là, il faut faire une victoire dans l'espoir que le Gabon batte la Guinée équatoriale. Autrement dit, la délégation burkinabé quittera Bata le mardi ou le mercredi prochain. Bata, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition demain dans Le Monde Aujourd'hui.
Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, chez Ruben Dorsil et Idrissa Sedoudia en direct du Studio 13, ici à Washington, la capitale fédérale des États-Unis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Alors, Elissa, ce thème annonce comme chaque jour la Minute Éco.
Et c'est un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec aujourd'hui Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Idrissa.
En Afrique du Sud, le gouvernement vole au secours de la South African Airways.
La compagnie aérienne qui se débat pour sa survie va bénéficier d'une nouvelle garantie de 500 millions de dollars de l'État sud-africain. Le ministère sud-africain des Finances, qui donne l'information, a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'injection d'argent frais, mais que l'État sud-africain va régler les dettes de la compagnie à hauteur de ce montant en cas de défaillance.
Et l'euro est à la baisse face au dollar.
La chute s'est produite après l'annonce des rachats d'actifs de la Banque Centrale Européenne. Ce rachat a pour objectif de stimuler l'économie dans la zone euro. Conséquence, l'euro est tombé à 1,15 $ alors qu'il évoluait quelques instants auparavant autour de 1,16 $. Une tendance qui ne serait pas très favorable pour les économies africaines dont la parité des monnaies se négocie avec l'euro.
La baisse de l'euro, ça joue sur nos exportations, l'exportation de nos matières premières qui s'expriment en dollars. C'est désavantageux pour les Africains.
Clarisse Yapelego, éditorialiste au magazine Innovation à Paris, en France.
Et Google s'apprête à se lancer dans la téléphonie mobile.
Le géant Internet américain Google a conclu des accords en ce sens avec les opérateurs T-Mobile et Sprint, selon le Wall Street Journal. Google veut utiliser leur réseau afin de vendre ses services. Le groupe californien est pour l'heure uniquement présent en amont sur les appareils mobiles avec son système d'exploitation Android qui fonctionne sur plus de 80% des smartphones dans le monde et a acquis également une part de marché importante dans les tablettes informatiques.
Merci Roger Bion pour la Minute Économique.
Édition du 22 janvier 2015, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. On commence par la République démocratique du Congo.
Eh bien, les manifestations populaires sur fond de violence toute la journée, du jeudi à Goma, au nord Kivu. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes tuées par balle. Les manifestants revendiquaient la libération des politiciens de l'opposition arrêtés depuis lundi, pour avoir organisé une marche contre la révision de la loi électorale. Reportage de notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudahigua.
Ce qui nous intéresse, quand le mandat se termine, il faut que le président cède le pouvoir à un autre président.
Oui, ça, c'est
on ne veut pas l'amélioration des mandats.
Plusieurs habitants ont envahi tôt le matin les grandes artères de la ville pour exiger la libération des politiciens de l'opposition arrêtés depuis lundi pour avoir organisé des marches contre la révision de la loi électorale. Toutes les activités ont été paralysées dans la ville. Les policiers ont dispersé les manifestants jusque tard dans la soirée. Cet habitant déplore l'usage des armes à feu pour disperser la population.
Une population qui n'a même pas une arme. Mais on a autorisé à ces complices tuer la population à balles réelles. Pour quel motif? Et pourtant, cette population a voulu marcher pacifiquement pour demander aux députés et aux sénateurs qu'ils n'ont pas été mandatés par cette population-là pour voter la loi électorale.
Suite à cette manifestation, le maire de Goma a annoncé la libération imminente des 10 politiciens de l'opposition. Il a également demandé à tous les parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à lundi prochain. Nasson Ndole Kubuya est le maire de Goma.
Sur décision du comité provincial de sécurité, les 10 opposants qui étaient aux arrêts seront relâchés cet après-midi. Mais il faudra que nous puissions d'abord rétablir la paix dans la ville.
Notons que plusieurs personnes ont été arrêtées durant cette manifestation par la police. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, appelle la population au calme et l'exhorte à attendre la dernière décision du Sénat qui est en train de statuer sur cette nouvelle loi électorale.
Pourquoi les gens s'agitent alors que la loi donne le pouvoir à cette même population de devoir voter? Je tenais à apaiser toute la population du Nord Kivu qu'il n'y a rien dans ce projet de loi et nous attendons ce que dira le Sénat pour savoir exactement quelle est la disposition qui a été adoptée.
Un calme précaire est revenu tard dans la soirée, mais plusieurs axes routiers restent inaccessibles à cause des barricades qui ont été érigées par les manifestants. Goma, Primo Pascal Rudahigua pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Le président de la transition burkinabé, Michel Kafando, a rencontré ce jeudi les hommes et femmes de la presse nationale et internationale pour des échanges à bâtons rompus sur les grandes questions de l'heure. Il a souhaité un soutien des médias pour une réussite de la transition, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Zoumana Wanogo.
Avant les échanges proprement dits, le président Michel Kafando, dans son mot introductif, a souligné à grands traits l'importance et le rôle de la presse dans la réussite de la transition. Il a du même coup demandé le soutien des hommes de presse. En guise de réponse, voilà ce qu'a dit Jean-Baptiste Ilboudou, le porte-parole des journalistes.
Nous avons contribué à l'avènement de la transition et nous avons donc l'obligation de soutenir la transition. Mais ce n'est pas un soutien béat, c'est un soutien responsable. C'est-à-dire que nous allons observer aussi la veille sur le fonctionnement de la transition pour voir est-ce qu'elle va dans le bon sens, dans l'atteinte de ses objectifs. Voilà ce que nous nous sommes dit et que nous avons pris comme engagement. Maintenant, il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement à prendre pour nous aider à aider la transition. C'est notamment la question de la dépénalisation, c'est la question de l'augmentation de la subvention de l'État à la presse privée, c'est la question de la défiscalisation des équipements de la presse, c'est la relecture des statuts des services des médias publics pour donner aux médias publics un peu plus d'autonomie.
Le dossier Thomas Sankara tout naturellement s'est invité au débat. Et là-dessus, écoutons ce qu'en dit le président Michel Kafando.
La première chose, c'est que la famille Sankara avait des difficultés pour pouvoir reconnaître le corps du président Sankara. Et parce que l'État s'y opposait, la justice avait même, si vous voulez, pris comme une sorte d'ordonnance pour dire que cela ne pourrait pas se faire. Quand nous sommes venus, nous avons dit que c'était une injustice de ne pas permettre à la famille de procéder à des investigations pour reconnaître le corps du président Sankara, pour savoir si effectivement celui qui est dans la tombe où on a écrit Capitaine Sankara, c'est bien le corps du président Sankara. Non, nous avons levé cette hypothèque-là. Deuxième chose, nous avons dit à la famille que nous pouvons l'aider à faire tous les travaux justement d'investigation parce que nous sommes conscients que c'est quelque chose qui est coûteux. Maintenant, le dossier de fond de l'affaire Sankara, je l'ai précisé aussi, c'est un dossier qui concerne beaucoup plus la justice puisque la famille Sankara avait attaqué l'État burkinabé. Donc, il faut simplement ressortir tous les dossiers, voir comment on peut les activer au niveau de la justice.
Les journalistes ont souhaité que de telles rencontres soient organisées le plus souvent afin de permettre aux uns et aux autres d'être au même niveau d'information. Zoumana Wanogou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Moins de 150 nouveaux cas de fièvre Ebola ont été signalés la semaine passée en Afrique de l'Ouest. Mais les efforts doivent se poursuivre pour éradiquer la maladie qui a fait jusqu'ici plus de 8600 morts. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi l'Organisation mondiale de la santé. On écoute son porte-parole, Tariq Yazarevitch.
On constate une baisse des nouveaux cas d'infection d'Ebola dans tous les trois pays affectés. Et c'est effectivement un bon signe. Toutefois, il ne faut pas trop vite célébrer, il ne faut pas baisser les gardes, il faut continuer sur la lancée. Donc le travail n'est absolument pas fini. Donc même si ça représente en fait un bon signe prometteur, le but reste d'interrompre toutes les chaînes de transmission et on n'est pas encore arrivé à ce point.
Pour donner une idée de cette baisse, au Libéria, il y a eu 8 nouveaux cas selon l'OMS en une semaine, alors qu'il y en avait plus de 300 par semaine en août et en septembre.
Oui, dans tous les trois pays, En fait, on enregistre un nombre de cas qui est le plus bas depuis des mois. Encore une fois, il faut être très prudent. Il suffit d'un événement comme un enterrement non sécurisé pour qu'il y ait de nouvelles chaînes de transmission. Donc, c'est vrai qu'on a plus de moyens sur place, on a plus de capacités de prise en charge, on a plus des équipes pour les enterrements sécurisés, mais il faut vraiment continuer à bosser. Il ne faut pas se satisfaire avec ce progrès parce que le but reste de ne plus avoir de cas d'Ebola dans les trois pays.
Le docteur David Nabarro a demandé hier $1 milliard pour achever de juguler le virus de la fièvre hémorragique. Est-ce qu'il y a eu une réaction à cet appel ?
On continue à faire appel à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds, à ne pas se fatiguer d'Ebola. Le fait que Ebola n'est plus dans les nouvelles ne veut pas dire que les gens ne sont plus infectés dans les trois pays. Et tant qu'il y a la transmission de virus dans les trois pays, il y aura un risque pour les autres pays aussi. Donc nous, on va continuer à rappeler le monde de ce qui se passe dans les trois pays. Et donc, il faut absolument qu'il y ait le soutien opérationnel et aussi financier pour qu'on continue à faire cette bataille.
Tarek Yazarevitch de l'OMS qui était joint à Genève par Camille Grosdidier.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés entre 20h et 21h, temps universel. De la bonne African music. De la bonne musique africaine, bien sûr, nous dégusterons quelques morceaux de Talé, le nouvel album électro de Salif Keïta, produit par Philippe Cohen Solal, plus connu pour son travail sur Gotan Project. Notre sujet de cette semaine aussi continue. D'après vous, quels sont les métiers les plus dangereux du monde et pourquoi certaines professions comportent des grands risques? N'est-ce pas? Ben, on en parlera encore ce soir, aujourd'hui seulement dans Arab Show, une émission de VOA Afrique. Bien sûr que nous lirons aussi vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Appelez-nous donc aujourd'hui en direct entre 20h et 21h, temps universel au 001 202 619 31 40. Peace Africa!
Le Monde, aujourd'hui, à la une ce soir.
En RDC, les manifestations se poursuivent à Goma, mais calme relatif à Kinshasa, où le Sénat a reporté de 24 heures le vote sur la nouvelle loi électorale.
Un attentat à la voiture piégée fait au moins 6 morts en Somalie.
Le chef des services de sécurité de Sirte assassiné en Libye.
Jean-Yves Le Drian souhaite l'aboutissement rapide des négociations sur la libération d'une humanitaire française en RCA.
Edgar Lungu, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle anticipée de Zambie, en tête.
Au Yémen, démission de Abdi Rabo Mansour Hadi, le président, et de son gouvernement. Ils ont capitulé face à la pression des rebelles chiites.
En Ukraine, au moins 41 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans l'est du pays depuis 9 mois. L'armée ukrainienne affronte des rebelles séparatistes pro-russes.
Et avant de nous en aller, un coup d'œil sur la météo. Un vent calme souffle sur Goma ce soir, où la température est de 19 degrés centigrades. À Ouagadougou, 30 degrés. À Bangui, 28 degrés centigrades. Mais ici, à Washington, on ne peut pas trop se plaindre. On est à environ 8 degrés centigrades. Idrissa Sidoudia. Lionel Gaïma était à la mise en onde, assisté de notre ami Dobinski à la console technique, à la présentation.
Idrissa Sedulia et Chérubien Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.